RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Union européenne soutient la Syrie à travers l'aide humanitaire. Rencontre avec la ministre des Affaires étrangères de l'Indonésie, trois ambassadeurs expliquent les fondements juridiques des attaques contre la Syrie. L'Indonésie veut améliorer le rôle des femmes dans les forces de maintien de la paix de l'ONU. MICTA a une grande contribution à la mission de paix de l'ONU. Média de coopération entre l'Indonésie et les Pays-Bas dans le domaine de la culture et de la langue. Le président Joko Widodo, ouvert IIMS 2018, a rappelé au développement industriel 4.0. Jérémy nous présente maintenant le journal complet. L'ambassadeur de l'Union européenne en Indonésie, Vincent Gérard, a déclaré que ce qui s'est passé en Syrie ne devrait pas se produire. L'Union européenne soutient la Syrie par l'aide humanitaire et la négociation politique avec le régime syrien. En marge de l'ouverture de European On Screen à l'Institut français d'Indonésie, jeudi 19 avril à Jakarta, il a déclaré que l'Union européenne estimait que le régime syrien était pleinement responsable dans cette situation.
What we Europeans believe on Syria is that there has been now for 7 years a horrible bloodshed in this country.
Ce que les Européens croient en Syrie, c'est qu'il y a eu 7 années de bains sanglants dans ce pays à cause de la guerre civile. Nous croyons que ce régime syrien a une très forte responsabilité dans cette situation. Et nous croyons que cela a été une preuve que ce régime a utilisé à plusieurs reprises des armes chimiques contre son propre peuple. Cela est inacceptable et constitue un crime terrible. Et c'est pourquoi l'Union européenne a soutenu les mesures pour montrer à ce régime que l'arme chimique ne peut pas être utilisée. C'est pourquoi, à notre avis, les mesures de détruire l'arsenal chimique de la Syrie sont légitimes. Dans le même temps, l'Union européenne est l'un des plus grands fournisseurs de soutien humanitaire pour le peuple syrien, à la fois en Syrie et celui qui avait fui vers les pays voisins comme le Liban et la Jordanie. Nous fournissons une grande quantité d'aide et nous soutenons autant que possible les pourparlers entre les différents partis syriens à Genève pour trouver une solution politique, car il est évident qu'il y a une solution politique et il n'est pas une solution militaire qui réussira à une guerre civile. Vincent Gérard a ajouté qu'il y avait environ 5 jours une opération militaire conjointe entre le Royaume-Uni, la France et les États-Unis a été menée pour détruire l'arsenal d'armes chimiques en Syrie. Il a également souligné qu'il n'y avait pas de victimes civiles dans cette opération militaire. L'ambassadeur américain en Indonésie, Joseph Donovan, l'ambassadeur britannique en Indonésie, Muazzam Malik, et l'ambassadeur français en Indonésie, Jean-Charles Bertonnet, ont rencontré la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, au ministère indonésien des Affaires étrangères, Jakarta. Dans la rencontre à huis clos, ils ont discuté des diverses questions. L'un d'entre eux concernait les raids aériens à Douma en Syrie, soupçonnés d'utiliser des armes chimiques. Lors de leur réunion, selon l'ambassadeur Muazzam Malik, sa partie avait demandé à l'Indonésie de rejoindre et de suivre l'utilisation des armes chimiques qui auraient été commises par le régime de Bachar al-Assad. Donc, j'étais en contact avec Mme Retno à la fin de la semaine dernière et j'ai demandé une réunion pour que nous, tous les trois, venions nous expliquer ce que s'est passé et nous offrons de partager nos preuves. Nous allons partager notre opinion juridique et la légalité de ce crime et même ouvrir une coopération totale à l'autorité indonésienne. Donc, nous nous rendons compte de ce qui se passe à Douma et aussi de ce qui est arrivé en Syrie et de la nécessité de voir comment la suite de cette discussion liée à cette question à l'avenir. L'ambassadeur Mouazzam Malik a également mentionné que la cible des attaques est la cible d'attaques visant à empêcher l'utilisation d'armes chimiques à l'avenir. Selon lui, l'État de coalition américain n'a pas d'intention de changer le gouvernement ou de changer la direction du conflit syrien, parce que la seule solution de ce conflit est un processus politique inclusif impliquant toutes les parties. En ce qui concerne la base juridique, le gouvernement britannique a expliqué à travers le site www.gov.uk. Ce site a mentionné que le gouvernement britannique s'était réfugié dans les bases juridiques mentionnant que l'attaque contre la Syrie est faite pour résoudre les souffrances humaines subies par la société syrienne en réduisant les capacités d'armes chimiques du gouvernement syrien soupçonné d'être utilisé pour perpétrer des attentats contre Douma en Syrie. L'Indonésie encourage le renforcement du rôle des femmes dans les forces de maintien de la paix des Nations Unies. Le vice-ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, A.M. Fahir, estime le rôle des femmes dans les forces de maintien de la paix est très important et nécessaire, notamment pour réduire les impacts négatifs sur les femmes dans les zones de conflit. Cela a été déclaré par A.M. Fahir dans le discours d'ouverture du Mexique, l'Indonésie, la Corée du Sud, la Turquie et l'Australie au MICTA panel de discussion sur les femmes de maintien de la paix tenu à Jakarta jeudi.
Basically, in conflict areas, women are basically most vulnerable.
Fondamentalement, dans les zones de conflit, les femmes sont essentiellement les objets les plus vulnérables. Ainsi, en présence des casques bleus des femmes, j'espère nous pourrions réduire le risque pour les femmes, comme par exemple le harcèlement sexuel. Peut-être nous pouvons également apprendre d'autres pays, et n'est pas seulement dans MICTA. 40% de ces casques bleus de la Suède sont des femmes. L'Indonésie possède 2700 femmes dans les forces de maintien de la paix. Actuellement, selon A.M. Fahir, l'Indonésie est l'un des 10 principaux pays contributeurs à la force de maintien de la paix des Nations Unies, avec 2700 personnes dispersées dans les zones de conflit. Depuis 1957, l'Indonésie a contribué par la fourniture d'environ 40 000 personnes pour maintenir la paix dans divers pays du monde. À l'avenir, l'Indonésie continuera d'augmenter ses contributions en renvoyant un bataillon militaire et des centaines de policiers, dont 40 sont des femmes policiers. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Les pays regroupés dans la coopération informelle de MICTA, à savoir le Mexique, l'Indonésie, la Corée du Sud, la Turquie et l'Australie, ont une contribution significative à la mission de paix des Nations Unies par le déploiement des forces de maintien de la paix. L'envoi de casques bleus est inclus dans l'envoi des troupes des femmes de maintien de la paix, dont le membre continue d'être amélioré par les Nations Unies. C'est ce qu'a affirmé la directrice de la sécurité internationale et du désarmement du ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Grata Endah Werdaningtyas, lors du débat de MICTA sur les femmes et le maintien de la paix à Jakarta, jeudi, le 19
avril 2018.
Et si nous regardons dans les données, les 5 pays MICTA actuellement ont contribué environ 3500 casques bleus dans tout le monde, avec plus de 100 personnels féminins. Donc, c'est pour nous, surtout l'Indonésie, est une bonne chose pour MICTA dans le maintien de la paix. Et je pense que cela est en ligne avec l'ambition du secrétaire général d'augmenter le nombre de femmes de maintien de la paix. Je pense que c'est important pour MICTA pour collaborer et discuter et aussi essayer de trouver une solution. Grata Endah Werdaningtyas a ajouté que les forces féminines de maintien de la paix ont plusieurs avantages par rapport aux forces de maintien de la paix actuellement dominées par les hommes. Selon elle, les troupes de paix féminines sont plus facilement acceptées par les populations locales touchées par le conflit. En outre, elles sont plus faciles de gagner le cœur et les esprits des populations locales et protéger plus efficacement les populations locales contre l'exploitation sexuelle et les actes de violence. Les Pays-Bas et l'Indonésie sont les deux pays qui ne peuvent pas être séparés dans les relations historiques. Ils ont des coopérations dans le domaine de littérature, de culture et de la langue. Il y a beaucoup d'écrivains néerlandais qui ont inspiré son œuvre de l'Indonésie, notamment les choses qui sont encore associées à l'époque coloniale. Par conséquent, comme une forme de participation néerlandaise à maintenir le patrimoine commun, Erasmus Huis a été créé en 1970. Le conseiller économique Sibel Schoor a déclaré à la Voix de l'Indonésie à l'ambassade des Pays-Bas à Jakarta jeudi que Erasmus Huis en Indonésie était le seul centre de la littérature et de la culture néerlandaise dans le monde.
Op het gebied van literatuur, op het gebied van film.
Dans le domaine de la littérature ou du cinéma, nous avons Erasmus Huis. C'est le seul centre culturel appartenant encore aux Hollandais, en dehors des Pays-Bas au monde entier. Pourquoi? Parce que nous pensons que les relations culturelles entre les Pays-Bas et l'Indonésie sont des relations très spéciales. Sibel Schoor a affirmé que Erasmus Huis était toujours renouvelé, y compris l'ambassade, dont les relations entre les deux pays restent spéciales. Selon lui, beaucoup de gens indonésiens connaissent mieux Erasmus Huis que l'ambassade néerlandaise. Erasmus Huis peut être le centre d'apprentissage de la langue néerlandaise, la littérature néerlandaise et la littérature européenne. Le président Joko Widodo a ouvert l'exposition véhicules indonésiens Salon international de l'automobile au IIMS 2018. Il a rappelé la tendance de la révolution industrielle 4.0 qui utilise l'autonomisation et la technologie numérique. Le thème de IIMS 2018 qui soutient et s'engage aux produits de voitures électriques reflète l'industrie automobile en Indonésie pour répondre au développement de l'industrie mondiale, a déclaré le président Joko Widodo dans son discours à J-Expo Kemayoran, Jakarta, jeudi. Selon le président, la révolution industrielle 4.0 peut orienter l'industrie automobile à la transition vers le développement de la technologie et ouvre des opportunités pour l'industrie automobile indonésienne. En outre, l'impact de l'utilisation de la technologie numérique qui le rend plus facile pour les transports en commun augmentera la production en véhicules en Indonésie conformément aux besoins du véhicule. 15 agents détenteurs de marque de véhicules à 4 roues ont participé à l'exposition tenue du 19 au 29 avril. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.